nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. On voit bien que ceux qui nous dirigent sont des incapables. L'autre lui dit, ne dis pas ça, parce que toi aussi, tu risques d'être comme lui. Et puis, ne te fais pas de soucis, de la marchandise, on en a. On en a peut-être trop. On va sûrement récupérer l'ADN, la peau, et le reste ira en bouillie. On ne peut pas tout garder, hein, chaque fois. L'homme lui dit, « Oui, mais celui-là, c'était de la première qualité. » L'homme lui dit, « Pas tant que ça, puisqu'ils ont décidé de l'achever. » Et l'ambulance continue sa route. Le temps passe. Maurice est dans son bureau, au siège. Il trie le courrier qui vient de lui être amené. Des lettres de recommandation, de demandes de projets, des invitations de toutes sortes, bien sûr des factures importantes, de la pub et une lettre écrite à la main, qui semble personnelle. Il ouvre. Là aussi, c'est écrit à la main. La lettre lui dit que son fils fréquente une jeune fille qui est une intrigante et qui en veut à son argent. La lettre n'est pas signée. Qui n'était déjà pas très chaud pour la jeune fille voit la confirmation de ses soupçons. Il se moque que c'est une lettre anonyme. Il plie la lettre pour la mettre dans sa poche.
soir, en rentrant chez lui, il retrouve son fils au salon.
Viens dans mon bureau, j'ai à te parler.
Le fils se lève et suit son père. Dans le bureau, le père lui dit « Assieds-toi ». Le père va s'asseoir en face du bureau. Son père s'assoit au bureau. Il se demande ce que va lui dire son père.
« Voilà, parlons de Mahom. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette fille que tu fréquentes ?»«
Fréquente ?» Gilbert lui dit « C'est mère qui t'a dit quelque chose ?
Pourquoi ?
Parce qu'elle ne l'aime pas. Tu connais les femmes, papa. Elles sont jalouses les unes des autres, mais il ne faut pas prendre au sérieux ce genre de choses.
Mon père lui dit, « J'ai pas parlé à ta mère, de ta petite amie, mais peux-tu me répondre ? » ?»«
Oui, je l'aime, mais je veux plus tard en faire ma femme. »
« C'est très généreux de ta part, mais as-tu bien réfléchi ?»
Gilbert lui dit, « Oui, bien sûr, père. C'est une jeune fille charmante, très douce et qui a une bonne éducation. »
« Je n'en doute pas, mais moi je pense qu'elle n'est pas pure, pas aussi pure que ça, et qu'elle a des idées bien arrêtées. Je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, qu'elle veut entrer dans notre famille pour avoir la part de notre héritage. »
Gilbert lui dit,
« Ridicule, père, si tu la connaissais mieux. Et toi, tu crois la connaître ?»«
Oui, bien sûr. » »«
Eh bien, moi, je te dis que non. Et je te demande de rompre avec cette petite intrigante. »
Gilbert se lève et lui dit,
« Sûrement pas, père. Eh bien, réfléchis et viens m'en parler.
J'y manquerai pas. »
Et Gilbert sort du bureau.
Mais ce que vient de lui dire son père le trouble, car il se souvient de ce que lui a dit Françoise, et malgré lui le doute entre dans son esprit. Il est tellement troublé qu'il a des difficultés la nuit à trouver le sommeil.
Il a des difficultés à travailler.
Enfin, le soir, il va à son université, devant son université. Elle accourt à lui. Il a honte d'avoir eu des idées troubles sur elle. Elle se penche son cou et lui dit « Bonjour, bonjour ». Il s'embrasse et lui dit « J'aimerais te parler sérieusement. Allons dans un coin tranquille. » Et il l'emmène dans un square au bord de la Seine en allant vers Notre-Dame. Ils s'assoient sur un banc, quelques enfants jouent autour d'eux et lui disent « Je suis inquiète, qu'est-ce que tu as à me dire de si sérieux ?» Il lui dit « J'aimerais savoir si la fortune de ma famille t'intéresse. » Elle est furieuse. Il a dit ça d'une façon stupide, sans psychologie. Elle hausse les épaules et lui dit « Bien sûr que non !» Il lui demande « Quand nous nous sommes connus, tu savais que ma famille était très riche ?» Elle lui dit, dégoûtée, « Bien sûr que non, et puis je m'en fiche. » Elle a envie de pleurer. « Pourquoi le prend-il ? Il a de l'argent et voit le mal de partout. » Elle lui dit, « Si tu veux le savoir, notre famille est plus riche encore que la tienne. La famille de ma mère est une des plus grosses fortunes du monde. Si nous vivons retirés, et sans luxe apparent, c'est par goût, et non pas parce que nous n'avons pas d'argent. Mais c'est pour ne pas nous faire remarquer, parce que ma mère s'est fâchée avec sa famille. » Il lui dit, « Mais ton nom ne me dit rien. » Elle lui dit, « C'est le nom de son mari, le mari de ma mère. » Il lui demande, « Et le sien ?» Il demande trop, « C'est pas parce que tu es riche qu'il faut te croire tout permis, que l'on te dise tout sur notre vie. Moi, je te pose aucune question. » Il lui dit, « Bien sûr, tout le monde sait tout sur nous à cause des journalistes. » Elle lui dit, « Je m'en vais tout de même pas faire demander un film sur notre famille, comme certains font. Non, nous avons notre dignité, nous savons nous tenir. Et puis, si tu ne me crois pas, nous n'avons qu'à plus nous revoir. » Gilbert se sent honteux. Il lui dit, « J'étais ridicule. Pardonne-moi. N'en parlons plus. C'est mes parents. » Elle lui dit, « Tes parents te traitent comme un petit enfant. » Il a les larmes aux yeux. Il a pendant ses bras, « Pardonne-moi. Pardonne-moi. »
Le soir, lorsque le père rentre, il va vers lui. Père, j'ai à vous parler.
Bien, allons à mon bureau.
Père va s'asseoir à son bureau.
Père demande, je t'écoute. Qu'as-tu à me dire?
Voilà, père, j'ai bien réfléchi et parlé à Nathalie. Nathalie n'est pas une intrigante.
Tu en es sûr?
Oui, père, et je ne veux plus que l'on me traite comme un enfant. Le père sourit et lui dit,
je vois. Tu me dis ça parce qu'elle t'a dit qu'on te traitait comme un enfant et qu'il ne fallait pas te laisser faire. Et toi, fièrement, pour lui prouver que tu es un homme, tu me dis ça. Ça veut dire qu'elle a joué sur ta fierté de jeune mâle pour te mettre de son côté.
Père, c'est faux. Vous voyez le mal de partout et interprétez tout ce que l'on va vous dire.
Le père lui dit, « Mais t'as-t-elle dit ça ?»
Gilbert lui ment, « Non, père. »«
Eh bien, je me suis trompé, pardonne-moi. »« C'est toi tout seul qui as eu un sursaut de caractère. »« Alors, tu es bien sûr qu'elle ne pense pas à ta fortune ?»«
Tout à fait. D'ailleurs, elle n'en a pas besoin. »«
Comment ça ?»«
Elle est plus riche que nous. »
Le père sourit, lui dit, tu connais mal notre fortune.
Si, mais elle aussi est très riche.
Cela m'étonne, je le saurais. Et il n'y aurait pas d'histoire.
Gilbert lui dit, sa fortune est plus grande que la tienne.
Explique.
Ta mère a sa famille qui est très riche, qui est d'une des plus grandes fortunes du monde.
Et quelle est cette famille ?
N'a pas voulu me le dire.
Pourquoi vit-elle pauvrement alors?
Parce qu'elle aime la simplicité et que la mère s'est brouillée avec sa famille.
Son nom?
Je ne le connais pas, le père lui dit.
Ce n'est sûrement pas la famille royale d'Angleterre. Nous le saurions.
Le fils lui dit, tu es ridicule de la dénigrer.
Je ne dénigre personne, mais je cherche à savoir.
Tu sais déjà que l'argent ne l'intéresse pas et que tu n'as rien à lui reprocher.
Ma foi, si tu le dis. Mais tâche de savoir quel est le nom de cette famille.
Pourquoi ?
C'est plus sûr.
Je lui ai promis de ne plus jamais lui poser de questions. Le père se lève et lui dit,
bien, allons au salon. Ta mère doit nous attendre.
Hubert se lève et tous deux sortent du bureau pour aller au salon. Là, je retrouve la mère assise en train de lire un journal. Lorsqu'elle les voit, elle leur demande « Mais que faisiez-vous donc ?» Le père, en s'avançant vers elle, lui dit
« Nous parlions. »
Elle lui dit « Je suis heureuse que mon fils discute avec son père, sûrement à faire. »« Tu vois, mon chéri, tu t'y mets, » Gilbert lui dit, tout doucement. « Les affaires sont une chose très passionnante. Regarde ton père, la forme qu'il a. » « Je sais, mère. » Cela lui ouvre l'esprit et il est ouvert aux gens. On a frappé à la porte.
Entrez !
C'est la bonne.
Madame est servie.
La mère se lève, les deux hommes la suivent pour aller à la salle à manger. Elle est contente que ces deux hommes s'entendent si bien. Le père sourit et réfléchit.
Le lendemain, dans son bureau, au siège, le père réfléchit. Ce que lui a dit son fils ne l'a pas du tout convaincu. Il se dit qu'elle a dû l'embobiner.
Ces gamins qui veulent jouer aux hommes, il suffit qu'une fille les regarde pour qu'ils perdent les pédales. Il a déjà l'esprit suffisamment rêveur comme ça. Moi, je ne crois pas à son histoire de Cendrillon. Ce serait trop simple. Il suffirait de lui faire enfiler une chaussure. Une des plus grosses fortunes du monde qui vit cachée dans un Paris misérable. Si la fille tenait vraiment à lui, et si elle voulait vraiment prouver son amour, elle n'aurait qu'à mettre les chaussures, c'est-à-dire montrer sa fortune. Si elle ne l'a pas faite, c'est qu'elle n'a rien. Et mon pauvre idiot de fils va se trouver marié à une mégère qui va tout lui prendre. Après, ils seront peut-être empoisonnés. Ça s'est déjà arrivé. Ça s'est déjà vu tout ça. Absolument que je chasse qui sont ces femmes. Je vais engager un détective privé pour le savoir.
Alors, il cherche un nom sur l'ordinateur. Il voit quelques adresses. Il tape à la société des agences urgentes. Il veut prendre rendez-vous avec cette société. On lui donne jour et heure. Il marque qu'il accepte. Note sur son cahier. Le nom de l'agence, l'adresse, le jour et l'heure. Le lendemain après-midi, il va à l'agence qui se trouve dans une petite rue triste. C'est un vieil immeuble de 5 étages.
Vers les boîtes aux lettres. Agence Morale, 4e étage. Regarde pour voir s'il n'y a pas d'ascenseur. Non, bien entendu. Il monte les étages à pied. C'est vieux, pas tête propre. Au 4e étage, il va sonner à la porte où il y a marqué la plaque « Détective privé, filature en tout genre, agence morale ». Lui a ouvert un jeune homme grand, mince, ses cheveux châtains, coupé en brosse, tête ronde, lunettes métal. Il est habillé d'une veste de laine noire, ouvert sur un t-shirt gris, jean, pieds nus, pas de pantoufles. Bonjour, vous désirez ?
Bonjour, monsieur. Je viens voir le responsable de l'agence.
C'est moi. Entrez. Le père entre. Le jeune homme ferme la porte. Grand couloir, tout noir, avec des cartons à terre. Le jeune homme lui dit, excusez-moi, je viens de me lever. Venez à la cuisine, je vais faire un café. Maurice pensa au sérieux. Il s'en irait si sa curiosité ne le faisait pas continuer son expérience. Le jeune ouvre une porte. Entrez. Maurice entre. C'est une grande cuisine, une pièce très grande. À droite, il y a une fenêtre. À côté, un immense réfrigérateur marron. Sur l'autre mur, la cuisinière, un évier, puis un petit meuble blanc. Sur le mur qui fait face à la fenêtre, un grand buffet, en bas, en bois clair. Sur l'autre pan du mur, il y a la porte. À droite se trouve un petit meuble bas. Au milieu de la pièce se trouve une table de bois, ouvrée qu'autour des chaises. Sur la table, il y a tout ce qu'il faut pour prendre le petit déjeuner. Asseyez-vous. Maurice s'assoit. Le jeune homme va au buffet prendre un bol, une cuillère pour déposer à côté de Maurice. Il lui dit, le café va chauffer. Tout à coup, entre dans la pièce une grande dame en robe de chambre noire à fleurs. Elle a des cheveux châtains frisés et a des lunettes, elle aussi. Elle dit, Jacques, qu'est-ce que c'est ? Le jeune homme lui dit, c'est un client. La femme fait « Ah, bon !» Elle sort de la cuisine. Jacques dit à Maurice « C'est ma mère. » La cuisinière prend la casserole d'eau pour la verser dans la cafetière. Maurice lui dit, ça fait longtemps que vous exercez ce métier. Oh, à peu près, on ne peut pas dire oui. Vous avez beaucoup de clients. Non, avec le temps qui court, pour vivre, ma mère fait des boîtes en carton. Jacques va à la table pour verser le café. Voilà, tenez. Merci. Et s'assoit. Vous voulez du sucre ?
Non, merci.
Jacques en met trois. Ils boivent en silence. Vous voulez des gâteaux ?
Non, merci.
Il y a un paquet de gâteaux, lu, entamé sur la table. Une fois qu'il est fini de boire leur café, Jacques se lève,
prend un gâteau et dit « On va dans ma chambre, on sera mieux. » Et Maurice le suit.
Sortent de la cuisine. Dans le couloir, Jean crie.
J'ai enfin déjeuné, maman.
Et il ouvre une porte au fond du couloir à droite. Ils entrent. C'est une grande pièce, ou plutôt on peut dire que c'est deux pièces transformées en une pièce. Lorsqu'on rentre dans la pièce, c'est la chambre, proprement dite, avec un petit lit en métal à gauche, au-dessus de lui, sur le mur, il y a des cartes postales, en face de la porte, une fenêtre, en face du lit, un tas de matériel de chenifi, etc. L'autre pièce, disons, où la cloison a dû être supprimée, se trouve un bazar de tables, livres, cartes sur la lune. Il y a une cheminée de pierre avec un plan de lune au-dessus. À terre se trouvent des panneaux de signalisation routière, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, c'est très difficile à décrire tout ça. Maurice regarde tout ça un peu surpris et amusé. Malgré lui, il trouve Jacques sympathique. Tout ça le change de ces requins qu'il voit toute la journée. Jacques lui dit, « Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de faire mon lit. Allons une table. » Il le mène dans un coin où se trouve une table avec dessus une vieille machine à écrire énorme, un monstre, gris métal, un vrai monstre. Deux chaises à côté de la table. Maurice se dit, ça doit faire plus sérieux de recevoir les clients devant une machine à écrire. Il a dû voir ça dans les films policiers des années 50 ou même 30, vu la machine. C'est plus drôle qu'un ordinateur et un bureau ultra moderne. Jacques lui dit, asseyez-vous. Il s'assoit sur une chaise et lui s'assoit en face de lui.
Je vous écoute, monsieur. Écoute, monsieur. Maurice lui dit, voilà, j'aimerais avoir le plus de renseignements possible sur une femme et sa fille. Comment vivent-elles? D'où elles viennent? Leurs amis, fortune, famille, etc. Tout quoi. Jacques lui dit, je vois, nous allons noter tout ça. Attendez. Il se lève pour aller prendre une feuille sur une pile de papier. Puis il revient.
Il est revenu à sa place et introduit la feuille dans la machine à écrire. Maurice est curieux de voir comment cette machine va marcher une fois que la feuille sera mise. La feuille est mise. Jacques demande. Nom de la personne. Concept, Anne. Et sa fille Nathalie. Jacques continue à taper. Adresse. Maurice elle lui donne. Sujet de l'enquête. Nous devons connaître la vie et la fortune, les connaissances, les origines de ces femmes. C'est ça?
Oui.
Jacques a sorti la feuille de la machine, la plie et la met dans sa poche et dit,
Bon, eh bien, je vais commencer l'enquête demain, Maurice lui dit.
Ça me fera combien?
Je ne sais pas encore. Ma mère va calculer tout ça. Mais j'aimerais, c'est être payé en nourriture.
Vous voudrez? Qu'est-ce que vous désirez? Jacques lui dit. De la charcuterie, des gâteaux et du café.
Bien.
Jacques se lève et lui dit, voilà. Maurice se lève et lui dit, je reviens quand?
Jacques réfléchit.
Dans une semaine.
Bien.
Et il le raccompagne jusqu'à la sortie. Il sort de la chambre. En passant dans le couloir, sa mère dit,
Jacques, sors caramel.
Oui, maman, je prends ma douche et je sors. Et il va ouvrir la porte. Il dit à Maurice, au revoir monsieur,
au revoir.
Et Maurice descend les escaliers.
Lorsqu'il se trouve dehors, il a une drôle d'impression. Il ne sait pas pourquoi, mais il se sentait bien avec ce jeune homme, même mieux qu'avec son fils. Il se dit,
j'ai dû faire une bêtise. Il ne réussira jamais à faire cette enquête.
Je l'amènerai toi-même, ce qu'il m'a demandé. Et il s'en retourne chez lui.
Arrivé à son bureau, il compare ce luxe de technologie avec ce qu'il a vu et trouve plus humain le bazar de Jacques.
De temps, Jacques dit à sa mère, « J'ai du travail, maman.
Qu'est-ce que c'est ?»«
Des femmes à suivre, sûrement un mari jaloux. J'en ai pour une semaine. Après, le garde-manger sera plein. »
Lendemain matin, Jacques se lève tôt pour lui à 8h30. Il va commencer son enquête.
Après s'être levé, il sort de sa chambre pour aller dans la salle d'eau qui se trouve en face de sa chambre. Prendre sa douche. Puis retourne dans sa chambre pour s'habiller.
et va à la cuisine prendre son petit déjeuner. Et met ses chaussures. Un petit chien marron clair, à grandes oreilles, va vers lui. Il le regarde en bougeant la queue. Jacques lui dit, « Non, je ne peux pas t'emmener. J'ai à travailler. Allez, Caramel. » Il le pousse et termine à mettre ses chaussures. Puis prend sa veste et sort de l'appartement.
Arrivé à la rue où habitent les Poncet, il va voir où elles habitent. Regarde bien la rue, les commerçants. Puis, il entre dans un petit café populaire.
À l'intérieur et assez sombre. Il y a deux vieux qui sont à table. Jacques va s'asseoir à une table. Le brise-coquet, un gros homme, fort, chauve, à tablier gris, vient vers lui.
Vous désirez
une bière.
Laquelle?
Un caprice des dieux.
Bien.
Le brise-coquet va lui chercher la bière. Il revient avec la bière.
Jacques lui donne une carte pour payer. Le brise-coquet la met sur l'écran et la lui rend. Demande. Les gens qui habitent la maison, là, avec le portail qui donne sur la cour, vous voyez?
Oui, la maison des Poncet.
Vous les connaissez? Le brise-coquet lui dit.
Oh, c'est pas des gens pour nous, ça.
Non, elles viennent jamais ici, chez nous.
Vous les connaissez pas, alors?
Non, pas vraiment.
Vous savez ce qu'elles font?
Non. Et puis, on les voit peu. La mère, presque pas. Pratiquement jamais.
Il n'y a que la fille. Il paraît qu'elle est étudiante. En quoi?
Je ne sais pas. Vous savez, moi, les études.
Ça fait longtemps qu'elle habite ici.
Attendez bien. 10 ans, hein?
Ouais, 10 ans. Elles vivent de quoi?
Ah, ça! Je n'ai jamais vu travailler.
Et pourtant, elles ont une bonne.
Oui, la vieille Marie. Elle va peut-être venir. Elle en sait certainement plus.
On la voit quand?
Ben, quand elle va chercher ses commissions, son lait. Elle vient prendre un petit blanc. Elle ne va pas tarder.
Et le bistroquet s'éloigne. Jacques se dit qu'il ne sait pas grand-chose. Il boit son verre.
Détective demande patience.
Est entrée dans le café une vieille femme toute maigre. Cheveux gris, elle porte une robe noire, un cabas à la main. Elle va au comptoir.
Salut Auguste.
Salut Marie.
Il lui sert son canevas.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.